Vous êtes sur RTL.
RTL.
Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie.
Mais je demande surtout aux personnes de ne pas prendre ce qu'ils disent pour une vérité parce que eux le disent.
Raphaël Enthoven est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Ma vie a changé le jour où j'ai accepté l'idée, tout à fait anti-philosophique comme on disait, que un coup qu'on ne rend pas est un coup qui vous empoisonne.
La vie ne vaut rien.
12h30, 13h30.
C'est pas Souchon qui le dit, vous savez, c'est André Malraux. La mort n'est rien pour nous, dans la mesure où quand on est vivant, et quand on est mort, on n'est plus là.
Rien ne vaut la vie.
Raphaël Enthoven, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu.
Rien ne vaut la vie.
Vous souriez à vous entendre.
Non, c'était pas à m'entendre, c'était au montage que vous avez fait, que je trouve délicat et charmant.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Ophélie, enchantée.
Bienvenue dans le journal inattendu.
Merci.
On est ensemble une heure en direct.
Plaisir.
Et c'est vous qui prenez les commandes de l'émission. Vous êtes philosophe et écrivain, mais aussi un grand passionné d'actualité, de débat et de théâtre. C'est une première, vous avez décidé d'écrire une pièce en alexandrin, L'école des dames, aux éditions de l'Observatoire. Vous vous emparez de la fameuse comédie de Molière, L'école des femmes, pour disséquer avec humour des sujets de société tels que le féminisme, les relations hommes-femmes, l'homosexualité ou encore notre rapport à l'âge, au temps qui passe. D'ailleurs, avez-vous peur de vieillir, Raphaël Enthoven? Quelle est votre définition du féminisme aujourd'hui? La vie est-elle une comédie? Vous nous répondrez. Homme de télé, homme de radio, parfaitement à l'aise derrière ce micro, vous nous livrerez votre regard sur l'actualité. Et puis nous recevrons tout à l'heure l'invité que vous avez choisi, Nicolas Bedos. Mais d'abord, le rendez-vous du début de l'émission, c'est l'autoportrait. Pour commencer, je donne une minute à mon invité pour se présenter. Alors Raphaël Enthoven, qui êtes-vous?
Mais par définition, je suis bien mal placé pour vous dire qui je suis. D'autres que moi font ça très bien, mieux. Le problème, c'est qu'ils se contredisent et que si chacun des gens qui parlent de moi avait raison, je serais une sorte de gauchiste, fasciste, républicain, sioniste, raciste, antisémite. Je n'ai aucune certitude, mais je doute d'être tout ça en même temps. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis né par hasard en 1975 d'un père journaliste qui avait fait ses études à Sciences Po et d'une mère journaliste qui avait fait ses études à Sciences Po et que pour ne pas faire comme eux, j'ai commencé par le journalisme et puis j'ai enseigné entre autres à Sciences Po. Après, pour continuer à m'en libérer, comme mes parents étaient écrivains, et ben je suis devenu écrivain. Et après avoir passé la première moitié de ma vie à être le fils de mes parents, je passe la seconde à être le père de mes enfants, en tout cas des 5 premiers. Voilà. Sinon, je suis prof de philo et je rêve de passer le temps qui me reste à écrire des livres qui énervent mes lecteurs, mais ne les ennuient pas.
C'est bien finalement quand on se présente soi-même.
Franchement, c'est soi-même comme un autre. On fait ce qu'on peut dans ces cas-là.
Prêt à décrypter l'actualité?
Avec plaisir.
Alors voici les titres. Une jeune fille de 17 ans tuée par un adolescent de 15 ans sur fond de différends sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé hier en fin d'après-midi à Ivry-sur-Seine. Dans un instant, vous entendrez le témoignage extrêmement poignant de la mère de la victime. Valentin Marconne, recherché depuis 4 jours dans les Cévennes, s'est rendu de lui-même à la police. Le fugitif de 29 ans s'était caché dans la forêt après avoir tué 2 hommes. Ce matin sur RTL, le patron du GIGN raconte une traque hors norme et se réjouit de son issue, extrait de cette interview exclusive dans le journal. En Israël, pas de trêve dans la tension entre juifs et palestiniens. Toujours plus d'attaques, de morts et de blessés dans la bande de Gaza. Une manifestation pro-palestinien a été interdite par les autorités à Paris et d'autres appels au rassemblement ont été lancés un peu partout en France. On fait le point avec Nicolas Burnand, reporter à la rédaction d'RTL. Et puis en football, Clermont saura ce soir s'il officialise sa montée en Ligue 1. Ce serait une première dans l'histoire du club auvergnat. Dénouement à 20h après la rencontre contre Caen. La météo, c'est avec vous, Céline Dacosta. Bonjour Céline.
Bonjour Philippe. Bonjour à tous.
Depuis ce matin, vous n'avez pas de très bonnes nouvelles. Alors, que se passe-t-il et combien de temps ça va durer?
Des averses, ça va durer au moins jusqu'au 23. Mais comme ça, voilà, vous êtes prévenus. Des averses soutenues sur toute la moitié sud en ce moment. C'est plus calme et sec sur la Côte d'Azur et la Corse. Pour la moitié nord, les averses ont déjà arrosé la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. C'était tôt ce matin. Alors, il reste quelques gouttes, mais on devrait quand même avoir des éclaircies. On en a déjà quelques-unes d'ailleurs sur l'ouest de l'Île-de-France. En revanche, c'est gris, pluvieux pour le reste de la moitié nord, particulièrement près des frontières du nord. Cet après-midi, les averses seront continues de l'Aquitaine aux frontières de l'Est. Vous voyez, c'est pas terminé. Le vent va se lever sur la moitié nord, apporter des nuages, des averses qui seront nombreuses et parfois orageuses. Et puis côté température, c'est relativement doux ce matin. En tout cas, des températures de saison, 8 à 13 degrés, avec déjà un 18 degrés à Bastia. Le soleil aide et puis frais pour la saison encore cet après-midi. La moyenne ira de 14 à 18 degrés jusqu'à 22 à Perpignan.
Merci beaucoup Céline, on vous retrouve à 18h parce qu'à 13h c'est vous qui faites la météo, Raphaël Enteva.
Il paraît.
Une météo tout à fait originale.
Je l'ai faite selon...
J'en dis pas plus, voilà. Rendez-vous à 13h.
Le journal inattendu sur RTL.
Ivry-sur-Seine, ville du Val-de-Marne, sous le choc après l'assassinat hier de Marjorie. Cette jeune fille de 17 ans a été tuée à coups de couteau par un adolescent de 15 ans. Ce matin, sa mère bouleversée témoigne au micro de Gauthier Delon-Bugard pour RTL et lance un appel. Ce que vous allez entendre est particulièrement poignant.
Arrêtez de laisser vos enfants traîner dans les cités. Arrêtez de faire de vos enfants des délinquants. Il faut que les parents se ressaisissent. Aujourd'hui, c'est ma fille. Demain, ça sera les vôtres. Je l'ai vue par terre, ensanglantée, dans une mare de sang. Ma fille, c'était pas une délinquante. Elle devait passer son bac pour être ingénieure. Elle avait que 17 ans, elle allait avoir 18 ans bientôt. Aujourd'hui, il a ramassé la vie de ma fille. Je dis bien ramassé la vie de ma fille. Hein, sans raison. Juste parce qu'elle était venue lui dire de rester tranquille, qu'il fallait pas qu'il agresse ma petite fille. Elle a voulu seulement défendre sa sœur. Un enfant qui tue un autre enfant, vous rendez compte? Il faut que ça s'arrête.
Un enfant qui tue un autre enfant. Fin de citation. C'est à peine croyable. Hein. Cette maman qui dit aussi qu'il faut que les parents se ressaisissent. Elle a raison, Raphaël Enteva.
Je ne sais pas. On est très mal placé pour dire qu'elle a raison ou qu'elle a tort. C'est bouleversant. C'est absolument bouleversant. Je veux dire, au-delà de ce qu'elle propose, il y a ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime en étant prise directe avec une douleur absolue. Il faut écouter et réentendre ce témoignage plusieurs fois. Pas tant pour le contenu que pour le ton qu'elle y met et qui ne ment pas. Ce qu'on entend là va au-delà des mots qu'elle emploie. Après, sur le principe que les parents se ressaisissent, oui, mais ça reste un vœu pieux et... Que ça s'arrête, pardon, ça reste un vœu pieux aussi. Il n'y a aucune raison que demain matin, l'humanité cesse d'être monstrueuse au point que des enfants s'entretuent.
Mais avant, on réglait un différend par les mots, par une dispute, éventuellement un
coup. Il n'y a pas d'avant à ça, Ophélie. Je ne vois pas de différence entre notre époque et les précédentes de ce point de vue. Il y a toujours eu des choses comme ça, des violences comme ça. Les enfants, d'ailleurs, entre eux, sont extrêmement violents, dans les classes aussi. Je ne vois pas de singularité à l'époque qui est la nôtre, même si une horreur comme celle-là fait que d'une certaine manière on est myope et on ne voit que ça. Mais ça a existé depuis toujours, ça existera encore.
Pour bien comprendre, Marjorie était venue à la rencontre de cet adolescent pour défendre sa petite sœur. Hein. Oui. Elle souhaitait apaiser une situation qui, selon les premiers éléments de l'enquête, se serait envenimée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'avec les réseaux sociaux, tout de même, nos adolescents ne font plus vraiment la différence entre le réel et le virtuel?
Alors, ce qui est vrai, c'est que l'image a un statut tellement différencié qu'en fait, on fait plus vraiment de différence. Au moment de l'affaire Samuel Paty, au moment de la tragédie Samuel Paty, c'est pas une affaire, c'est une tragédie. Au moment de la tragédie Samuel Paty, on voyait parfois même, on voyait les élèves même de Samuel Paty ou des gens qu'il connaissait qui se passaient l'image du professeur décapité qui était encore en ligne et qui trouvaient ça marrant, en fait, qui se passaient ça comme ils auraient passé une capture d'écran de Netflix. Et c'est cette indifférenciation de l'image, c'est-à-dire que l'image, la réalité amuse autant que la fiction. Et là, on est en prise directe avec un problème ça n'est pas tant la facilitation du meurtre, c'est l'éloignement du réel. C'est-à-dire que tout ce qui est réel est relégué au même rang que ce qui ne l'est pas et donc traité de la même manière. Il y a peut-être un lien entre ça et le passage à l'acte, mais je n'irai pas plus loin.
Le suspect de 15 ans a été interpellé à Massy peu de temps après la tuerie. Il est actuellement en garde à vue. L'actualité, c'est aussi cet incroyable trac qui a pris fin hier soir dans les Cévennes. Après avoir passé 4 jours en forêt, Valentin Marcon s'est présenté à la police en disant « Excusez-moi, je me rends ». Le fugitif était hagard, à bout de force. Je rappelle que cet homme de 29 ans a abattu mardi son patron et un de ses collègues dans la Syrie où il travaillait. Ce matin, le patron du GIGN qui a participé activement à la traque, Ghislain Réti, était C'était l'invité de Stéphane Carpentier. Il se félicite de l'issue. Écoutez.
Grande satisfaction, satisfaction pour la population, satisfaction aussi pour la famille des victimes. Le GIGN n'était qu'une composante de l'ensemble du dispositif, mais effectivement, c'est de l'avoir acculé et d'avoir évité les scénarios les pires, c'est-à-dire un, qu'il sorte du périmètre et qu'il aille commettre éventuellement une autre tuerie, ce qui était une hypothèse envisageable, et deux, avoir évité qu'il se suicide. Et la troisième hypothèse qu'on a surtout évité, c'est un usage des armes de la part des gendarmes ou même de l'auteur.
Vous avez des précisions ce matin sur l'endroit où il était précisément, caché, camouflé
Alors, il était effectivement dans une cache qu'il avait aménagée, très bien aménagée. Cette cache a été découverte 5 minutes avant qu'il ne se rende. Il était dans un état de fatigue extrême, il avait soif, il avait faim. Et la première chose que les gendarmes ont fait quand il s'est rendu à ces gendarmes, outre bien évidemment vérifier qu'il était en sécurité et lui notifier ses droits, c'est lui donner à boire et à manger.
Une interview exclusive du patron du GIGN à réécouter dans son intégralité sur RTL.fr. Raphaël Entoven, cette histoire, c'est aussi celle d'un village paisible, hein, des Cévennes, placé sous haute tension là, pendant 4 jours, reconfiné de force dans une situation où on est déjà quand même
tout
assez fragile.
Oui.
Ouais, psychologiquement, il y a donc d'un côté un suspect à juger, mais aussi des citoyens à rassurer. Là.
Oui, oui, c'est vrai. Alors les citoyens en général, dans ces cas de figure, je ne sais pas ce qui s'est passé là et on n'a pas fait de micro-trottoir sur place, enfin pas encore, on va en faire probablement, mais dans ces cas-là, les citoyens ont une méthode assez simple pour se rassurer, qui est de dire « je comprends pas, il avait l'air normal ». Ce qui est une façon de se rassurer parce que, en fait, quand on dit on découvre soudain qu'un type était un tueur en série, ce qui est peut-être pas le cas de
Valentin
la personne,
Marcon,
on
n'en
sait rien pour l'instant, mais enfin, il s'est passé quelque chose là. Et dans ces cas-là, les gens s'étonnent de dire « oh, il avait une tête comme les autres ». Et en fait, ce qui rassure dans cette réflexion, c'est de se dire qu'un méchant doit avoir une tête de méchant et que s'il a pas une tête de méchant, c'est pas normal. C'est pas habituel. Donc on a implicitement une façon collectivement de se rassurer qui est de dire tiens, il a accompli un truc épouvantable et pourtant il avait une tête normale. Voilà, c'est le premier réflexe. Reste qu'on se rassure temporairement et tant qu'on peut. Hein.
Valentin Marcon a été immédiatement bien sûr placé en garde à vue pour assassinat. À la page Covid, la France est en passe d'atteindre son objectif de 20 millions de vaccinés. Jean Castex vient de préciser Porte de Versailles transformée en vaccinodrome. Ce chiffre symbolique devrait être atteint dès ce soir, a précisé le Premier ministre qui demande aux Français de garder le cap. De nombreuses doses doivent arrivé au mois de juin. Et le 15 juin, c'est aussi l'ouverture de la vaccination à tous les plus de 18 ans sans condition. Ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles à la page Covid.
Oui, ça fait tout à fait du bien. Et puis c'est surtout, ce qui est agréable, surtout, c'est de penser d'imaginer le cauchemar que les antivax doivent être en train de vivre en ce moment. L'enfer, si vous voulez, l'enfer devant cette unanimité selon laquelle le vaccin guérit, sauve, protège. Il y a un an, le 9 mai 2020, Didier Raoult disait qu'une politique vaccinale serait absurde. Il faudra inlassablement revenir sur la déclaration de ces charlatans et sur le mal qu'ils ont fait.
Dans un instant, on part en Israël, où la tension ne redescend pas depuis une semaine. À Paris, une manifestation pro-palestinienne doit peut-être se tenir malgré l'interdiction du gouvernement. On fait le point tout de suite avec Nicolas Burnand. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Raphaël Entoven, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Raphaël Entoven et Ophélie Meunier.
Et la suite du journal avec cette escalade de la violence en Israël entre juifs et palestiniens depuis maintenant une semaine. La manifestation en soutien au peuple palestinien prévue cet après-midi à Paris a été officiellement interdite par les autorités. La raison invoquée, un risque de trouble à l'ordre public. D'autres appels ont été lancés en France pour des rassemblements. Alors Nicolas Burnand, que va-t-il se passer cet après-midi et dans quelles conditions?
Eh bien les rassemblements sont par exemple autorisés à Lyon, Bordeaux, Montpellier, Marseille ou encore à Nantes ou Toulouse. En revanche, ils sont interdits à Nice, à Grenoble, à Aubervilliers et Montreuil en Seine-Saint-Denis car les autorités craignent des débordements. À Paris, la manifestation qui doit se tenir à 15h dans le quartier de Barbest reste elle aussi interdite. Un recours devant le Conseil d'État a été déposé par l'un des organisateurs qui maintient son appel à se rassembler. En 2014, le quartier avait été déjà le théâtre de scènes de guérilla urbaine en marge d'une manifestation en soutien au peuple palestinien. Des propos antisémites avaient aussi été scandés. Cet après-midi à Paris, tout début d'attroupement sera dispersé. Des interpellations seront effectuées, avertit la préfecture de police de Paris. Dans le secteur, elle a demandé au commerce de baisser leurs rideaux par mesure de précaution. Plusieurs stations de métro sont fermées et un important dispositif de sécurité sera mobilisé. Des centaines de gendarmes et de policiers seront déployés.
Raphaël Entoven, interdire, pas interdire, c'est compliqué. Il n'y a pas de bonne solution.
C'est très compliqué. J'étais en train de me dire, en vous écoutant, que ces gens-là avaient ringardisé les gilets jaunes de façon étonnante. Mais bon, effectivement, interdire, pas interdire, il n'y a pas de bonne solution. Si vous êtes préfet, vous êtes en présence d'un problème, là. Juste un point, d'abord. Il y a des gens qui vont se servir du fait que ce ne soit pas interdit partout pour dire qu'il y a un traitement inéquitable des choses. C'est absurde. Quand vous êtes en main, et que quand vous avez les leviers en main, que vous avez les informations, il y a des endroits où vous pouvez permettre ces manifestations, et c'est ce qui doit prévaloir dans le maximum d'endroits. Et puis, il y a des endroits où c'est trop dangereux. Interdire ça n'est pas liberticide quand c'est si dangereux. Néanmoins, interdire, c'est aussi donner du grain à moudre à celui qui se sentira victime de cette façon-là, ou le filou qui voudra faire valoir une position victimaire. C'est l'idéal. C'est-à-dire que c'est... Le paradoxe, c'est que la meilleure solution me semble aussi être un cadeau fait à des gens qui ont un agenda politique derrière tout ça et qui voudront se faire passer pour les victimes d'un État liberticide.
Et en Israël, qu'est-ce qui pourrait... Aujourd'hui, on a l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui entraîner une désescalade ?
Oh, je ne suis pas israélien, je serais bien en peine de vous le dire, je ne suis pas sur place. Moi, mon seul sentiment, c'est que dans cette affaire, c'est un peu comme l'affaire Dreyfus d'ailleurs, on voulait à l'époque raison garder, c'était l'expression qu'on employait le plus souvent, c'est-à-dire cacher la poussière sous le tapis. Mais on peut très bien entendre raison garder comme l'inverse, c'est-à-dire se faire le gardien de la raison et considérer que tous les sujets peuvent être mis sur la table à condition d'être rationnels et raisonnables dans leur exposition. Et donc, j'ai tendance à penser, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, que si chaque fois qu'il y avait une tragédie comme ça, c'est-à-dire des roquettes qui vont s'abattre sur Tel Aviv et en retour des bombardements israéliens, que les représentants, par exemple, palestiniens attirent l'attention de leurs ouailles et des gens qui les écoutent sur la folie qu'il y a à envoyer des roquettes sur des populations civiles. Alors que, de l'autre côté, les représentants de la communauté juive disent « Regardez quand même, malgré tout, la disproportion de la réponse. Et même si l'armée vise alors que les roquettes ne peuvent pas viser, il faut quand même prendre acte du fait que le rapport de force est inégal. » Si ce discours-là, qui est un discours de raison, qui n'est pas un discours hostile, ni à l'un ni à l'autre, était tenu. Il ne s'agit pas de mettre les deux sur le même plan. Il s'agit de demander aux représentants de chacun de penser contre eux-mêmes. On entrerait dans une contradiction. On sortirait de l'opposition. C'est un vœu pieux.
Le bilan, en tout cas, de ces tensions depuis 8 jours fait état de près de 130 morts, dont une trentaine d'enfants côté palestinien, et 9 morts, dont un enfant côté israélien. Merci.
Oui, j'ai un doute, Nicolas, sur les Burman. Sources de votre bilan, quand même.
Bande de Gaza. Repris par l'AFP.
Voilà.
Reporter à la rédaction d'RTL. Merci Nicolas Burnand. En sport, pas de Ligue 1 aujourd'hui en football, mais 10 matchs prévus demain soir à 21h. L'information football, c'est surtout Clermont qui s'impatiente en cette 38e et dernière journée de Ligue 2. Le club pourrait officialiser sa montée en Ligue 1 après sa rencontre ce soir à 20h contre Caen. Ce serait une première pour Clermont, ce qui ferait la fierté de toute une région. Et dans quelques jours, moment attendu en France, réouverture des terrasses, réouverture des salles de spectacle, la culture revient. Ça vous met dans quel état, Raphaël Enthoven ?
Je suis assez curieux de savoir si tous les gens qui, pendant le confinement, la fermeture des terrasses, les terrasses je veux bien, mais la fermeture des librairies surtout et des salles de spectacle, ont présenté ça comme...
Les librairies n'ont pas été beaucoup fermées, assez vite considérées comme commerce essentiel.
Pas assez vite peut-être, mais enfin bon, ça a été le cas.
Ouais.
Mais enfin, beaucoup de gens ont à ce moment-là présenté la culture, le théâtre, la librairie, la lecture, comme leur oxygène. Et vraiment, ils étaient asphyxiés par ces privations. Je suis curieux de savoir si tous ces gens qui étaient asphyxiés vont si vite reprendre des bols d'air en allant au théâtre. Je demande à voir. On est plus facilement amoureux de la culture quand on n'a pas le droit de s'y rendre. Mais enfin, on verra.
Alors, vous venez d'écrire L'École des Dames, une parodie en 3 actes aux éditions de l'Observatoire. Vous abordez un grand nombre de sujets sociétaux qui nous préoccupent tous, beaucoup, beaucoup de sujets, et en peu de pages finalement, les relations hommes-femmes, le désir, la vieillesse, l'infidélité, le consentement, les réseaux sociaux, l'homosexualité, l'amitié, le féminisme, je ne pense pas en avoir oublié. D'ailleurs, vous dédiez cette pièce à Elisabeth Badinter.
Oui, ça m'est venu comme ça.
Pourquoi ?
Je ne sais pas.
Elle l'a lu, elle vous a fait un retour ?
Elle m'a autorisé à lui dédier, c'est-à-dire je lui ai demandé si quelque chose dans ce texte l'offensait ou la gênait ou la dérangeait. Elle m'a dit que non et que naturellement elle était contente. Voilà, je crois en être dédicataire, mais ça s'est arrêté là et je n'aurais pas plus d'explications à dire à ça, sinon que peut-être le personnage de Jeanne dans cette pièce me semble un modèle de féminisme accompli, mais ça c'est une autre histoire.
Bah alors c'est quoi votre définition du féminisme en
2021 ? Je ne saurais pas vous le dire, je suis un vieux de la vieille, j'ai tendance à penser que les hommes et les femmes ont des droits égaux, si vous voulez, et que la différence ne change rien quant au droit à l'indifférence. Voilà, je crois je crois. Peut-être est-ce une croyance à la différence des sexes, mais je crois à l'indifférenciation des citoyens. Mmh. Donc voilà, mon féminisme est un universalisme qui s'appuie sur le constat d'une différence entre deux sexes, qu'on peut contester d'ailleurs, sur laquelle on peut travailler, sur laquelle on peut revenir. Mais enfin, disons que c'est le préjugé sur lequel mon universalisme repose, voilà, et que je mets en œuvre là-dedans.
Écrire une pièce en alexandrin, c'est la première fois que vous le faites, ça a été un exercice compliqué, excitant, particulier?
Absolument adorable. J'ai adoré faire ça. Très difficile. Parce que non seulement vous faites des alexandrins, mais la versification est subtile. Et puis il faut alterner les rimes masculines, les rimes féminines. Donc c'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais un travail délicieux. Vive le premier confinement de ce point de vue. Pardon, je fais le malin. Mais ouais. Enfin, c'est vrai quand même que parfois, quand vous êtes écrivain et que vous êtes confiné, ordinairement, un écrivain est celui qui a l'impression d'être descendu du train. Un écrivain en confinement, il est chef de gare, si vous voulez. Donc effectivement, j'ai eu cette liberté, cette chance, ce temps libre, et j'ai pu donc composer cette pièce en alexandrin.
On le sait, vous êtes passionné de scène, de théâtre.
C'est vrai.
J'imagine que vous avez écrit ça aussi pour être joué.
Oui, c'est vrai. Je l'ai écrit dans l'idée de le jouer, dans l'idée de le mettre en scène.
De le jouer, vous ?
Non,
vous
pas de le jouer, il n'y a pas de rôle pour jouer. Mais mais en revanche, de le faire jouer, oui, bien sûr, de le faire jouer, je l'espère.
Vous avez déjà des pistes ?
J'ai déjà des idées, c'est pas mal.
Un théâtre ?
Peut-être.
Peut-être.
On verra.
Bon, vous ne pouvez rien
mais
dire.
Mais je ne peux rien vous dire parce que je vous mentirais si je vous en disais plus.
Dans un instant, on continue à parler de tous ces thèmes de société que vous abordez dans cette pièce. Et puis on se mettra dans l'ambiance avec notamment la didascalie de l'acte 1, scène 2, qui, moi, m'a fait beaucoup rire.
Ah,
à
oui.
Tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Raphaël Enthoven.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL avec Raphaël Enthoven et Ophélie Meunier.
Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. Peut-être qu'il faut préciser que ce n'est pas un message. Je t'aime moi non plus de Gainsbourg.
L'anagramme de je t'aime moi non plus, d'ailleurs c'est intéressant, c'est à la lettre près, c'est Jacques Périssalco qui l'a trouvé, c'est On a simplement joui.
Ah c'est vrai, je n'avais jamais remarqué. En tout cas c'est une de vos chansons préférées, Raphaël Enthoven, de Gainsbourg. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle provoque en vous cette chanson ?
Non, c'est que je trouve que c'est très exactement une contredanse, c'est que c'est mieux qu'un tango, ils ne peuvent pas danser l'un sans l'autre.
Alors,
j'aime cette idée-là.
Il y a un instant je parlais de l'acte 1, scène 2, de la didascalie précisément, donc de l'acte 1, scène 2. Je la lis mot pour mot. Jeanne est en petite culotte et débardeur infiniment sexy, en lotus, sur un vaste fauteuil où elle check son fil Insta, en tirant de grosses bouffées d'une cigarette électronique en forme de grenade et en chantonnant ça.
Bébé, bébé du sale, allô, 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 million de dollars, bébé, tu go ça, ça. Bébé, bébé du sale, allô, allô, allô.
En enfer pour ces lignes-là, quand même. Voilà, non, elle est
Pookie d'Aya Nakamura. Mais vous êtes devenue sexiste ?
Mais oui, bien sûr. En fait, de citer Aya Nakamura là me permet de la faire rimer avec Vosgela à la fin de l'acte, justement. J'aime beaucoup Aya Nakamura, moi, donc c'est tout à fait différent. Le fait est que Jeanne, c'est l'anti-Agnès. C'est-à-dire, dans l'école des femmes de Molière, Agnès est une ingénue et sa seule force est de savoir, comme elle dit, qu'elle est une bête. Alors que Jeanne, on est au 21e siècle, c'est elle qui a le pouvoir. Elle tient tout. Elle a le pouvoir, c'est elle qui contrôle. Et d'une certaine manière, son geôlier est devenu prisonnier des sentiments qu'elle lui inspire. Et donc le rapport de force s'est totalement inversé. Elle n'a en ce sens aucun scrupule à se montrer tel qu'un homme peut l'imaginer désirable parce que ça n'entame pas sa liberté.
Alors c'est bon de sexiste, vous êtes redevenu féministe à travers vos deux personnages.
Molière l'était lui-même, pardon, à part égale. C'est ça qui est fort, il est l'interprète du mari cocu, comme il est celui qui donne aux femmes des paroles libératoires magnifiques.
Ça avait fait débat, mais en tout cas c'est sur cette version que l'on reste aujourd'hui.
Oui.
Donc vous parliez à l'instant de vos deux personnages, Jeanne et Colin, vous abordez à travers eux la question du couple, du désir, de la fidélité. J'aimerais vous faire réagir à l'une de vos répliques, page 120, la brièveté, c'est le prix de l'amour. On a connu plus romantique hein, comme vision de l'amour.
Oui, c'est parce qu'on est à un moment où Jeanne comprend qu'elle ne pourra pas tout obtenir de ses deux amoureux et qu'il lui faudra laisser à chacun, comment dire, toi pour la sodomie, toi le cunilingus, en la polygamie, trouvons un consensus. Voilà, elle essaie de s'entendre en fait, elle cherche une motion de synthèse en socialiste à ce moment-là. Et pour ce faire, elle consent donc à ce que le plus jeune devienne son amant, ne soit que son amant, mais à condition de savoir et de ne pas être dupe des choses, de savoir que tout ce qui vit dure et donc pour cette raison ne dure pas longtemps.
Alors, autre sujet de société qui nous préoccupe tous à un moment donné de notre vie, je crois, que vous abordez dans cette comédie, la vieillesse, notre rapport à l'âge et au temps qui passe. Par exemple, il y a plusieurs répliques concernant la vieillesse, j'en cite une, page 62. Colin dit, j'ai 65 ans et j'ai mauvaise haleine, j'ai les muscles tout mous, la bite en quarantaine.
Mmh. Et je séquestre une... Et pour combler le temps, je séquestre une gamine qui n'a pas 20 ans. Oui, Colin le dit à ce moment-là parce qu'il s'aperçoit qu'il ressemble à Arnolphe, dont qu'il est censé incarner dans l'école des femmes. Et or, toute la théorie de Colin est de penser qu'un acteur ne doit pas du tout ressembler à son personnage. Il doit vraiment contrefaire son personnage. Il fait partie de ces gens qui pensent qu'on ne doit pas éprouver les émotions qu'on présente au spectateur. Sinon, on est tout entier soumis à ses émotions et c'est n'importe quoi. Et donc, il est le partisan d'une certaine tenue. Or, il est obligé d'admettre qu'il est aussi ridicule qu'Arnolphe et qu'en réalité, il ressemble de très près au vieux barbon qui séquestre une gamine qui n'a pas 20 ans parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait.
Alors, je peux me permettre de vous poser la question. Vous avez 45 ans, vous l'avez dit dans votre autoportrait, je ne révèle rien. Vous avez peur de vieillir, vous, Raphaël Antoven ?
Oh non, je ne parlerai pas de peur de vieillir, parce que la peur de vieillir est une façon de maintenir la vieillesse à distance. On a peur de quelque chose qui va arriver, on a peur d'un danger qu'on pressent, on a peur d'un truc qui n'est pas encore là. Quand vous vieillissez, il n'est plus temps d'avoir peur, il est temps de le constater. Donc je dirais plutôt que ça me désole, mais je ne dirais pas que j'en ai peur, c'est fini d'en avoir peur. Quand on a 45 ans, on est vieux.
Dernier sujet que je voudrais aborder, il y en a d'autres dans votre livre, c'est le consentement. Sujet important, hein, je pense au livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, au livre de Vanessa Springora, le consentement, qui ont provoqué une onde de choc. Je rappelle que la loi a évolué en avril dernier, âge de non-consentement fixé à 15 ans, 18 en cas d'inceste. Oui. Exemple de victoire de la littérature sur la société.
Magnifique victoire en tout cas du droit, merveilleuse victoire du droit, remarquable. Reste évidemment que dans ma pièce, il y a un double problème de consentement, puisque que Jeanne était mineure quand elle a rencontré Colin pour le dire pudiquement et que par ailleurs on a quand même un baiser forcé dans cette pièce.
Dans un instant, le rappel des titres et votre météo tout à fait spécial. Ah oui. Raphaël Antoven, très original. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Il est 13h.
Le journal inattendu de Raphaël Antoven.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Elle avait 17 ans. Elle a été tuée hier à Ivry-sur-Seine à coups de couteau par un adolescent de 15 ans. Marjorie était venue défendre sa petite sœur qui avait eu un différend avec l'agresseur sur les réseaux sociaux. Elle a payé cette tentative d'apaisement au prix de sa vie. Sa mère et sa sœur, extrêmement bouleversées, parlent d'une jeune fille calme et studieuse et demandent à ce que la violence entre adolescents cesse. Valentin Marconne, 29 ans, assassin présumé de deux hommes dans les Cévennes, s'est finalement rendu à la police après 4 jours de traque infernale. Il était très affaibli et hagard. Il a été immédiatement mis en examen pour assassinat. Le patron du GIGN se félicite ce matin sur RTL que l'homme n'ait pas commis d'autres meurtres avant d'avoir été retrouvé, ne se soit pas suicidé et que ni lui ni la police n'aient eu recours aux armes. Près de 130 morts côté palestinien, une dizaine côté israélien, une tension qui ne redescend pas depuis plus d'une semaine en Israël. Plusieurs manifestations auront lieu un peu partout en France aujourd'hui en soutien au peuple palestinien. Le rassemblement parisien prévu à 15h a lui été interdit par les autorités. Les États-Unis sont entrés ce matin en pourparlers avec Israël pour tenter de revenir à un calme durable. En football, pas de match de Ligue 1 aujourd'hui. Toutes les rencontres auront lieu demain soir, mais c'est une journée clé pour Clermont-Ferrand. Le club de Ligue 2 pourrait atteindre la Ligue 1 ce soir après sa rencontre face à Caen. Une première. Antoine, supporter auvergnat, abonné au stade, est impatient et se prépare déjà à fêter l'exploit. Il est au micro de Guillaume Frixon.
Oui, c'est irréel et ça sera encore plus réaliste samedi soir où on pourra vraiment fêter ça.
On a hâte.
Ah ben on a hâte, hein, le maillot il sera déjà acheté, il va être précommandé dès possible, le maillot sera précommandé avec le badge de Ligue 1.
La rencontre Clermont-Caen, c'est à 20h, ce soir à 18h30 sur RTL, vous retrouvez Philippe Sanfourche pour On refait le match. Ce sera suivi de RTL Foot de 20h à 22h avec Eric Silvestro et Xavier Domergue. Et puis quel joli moment pour Romain Grosjean, le pilote victime d'un terrible accident au Formule 1 en novembre dernier, a retrouvé le sourire et fini en pole position lors des qualifications pour le Grand Prix d'Indianapolis en IndyCar. La course a lieu ce soir. À 13h, la météo, c'est avec notre invité. C'est à vous, Raphaël Antoven.
Alors, connaissez-vous plus humide que le printemps ? On n'en a pas fini avec le mauvais temps, ni la grisaille où la mélancolie s'agrège. Aux Alpes, on prévoit quelques flocons de neige. Des régions Pyrénées, aux frontières du Nord, d'Aquitaine à Rhône-Alpes et le flanc de l'Est, les averses aussi seront de la partie. Amis policiers, préparez vos alcotests. Notre France aujourd'hui n'est qu'une Normandie. Mais le soleil est là. Soyez-en consolés, dans le sud de la France, en Méditerranée, où les auditeurs d'RTL sont quantité. Allez vous faire voir, vous qui nous écoutez. Allez vous enrhumer jusqu'au fond des narines, si c'est le prix à payer de vos bonnes mines. Heureusement, le vent risque aussi de souffler à près de 60 km à l'heure dans les départements de la Manche et de l'Eure. Sortez vos chars à voile et laissez-vous porter. Enfin, pour terminer, avez-vous remarqué, chère Ophélie, que les normales saisonnières désigne le chiffre qu'on va toujours rater, soit plus haut, soit plus bas, soit devant, soit derrière. N'est-il pas étrange que la normalité, dont on voudrait qu'elle soit répandue sur Terre, dont on fait tant de cas et d'objectivité, soit insaisissable tout en étant en critère ?
C'était une première, une météo en alexandrin sur RTL, la météo de Raphaël Enthoven.
Merci.
J'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous avez tiré de positif de cette crise épidémique. Vous m'avez un peu répondu déjà tout à l'heure et encore plus avec cette météo finalement. Une écriture en alexandrin que vous maîtrisez incroyablement. Je précise que vous avez eu les informations hier soir et donc en quelques heures vous avez...
J'avais la matière, j'avais le bureau.
Réécrit cette météo incroyable. Pour votre reportage inattendu, Raphaël Enthoven, vous avez souhaité nous emmener à la rencontre de gens dont la pandémie a changé la vie pour le meilleur. C'est vrai que pour certains, cela a été un déclic pour changer de métier, changer de région, donner un autre sens à sa vie. Morad Jabari a rencontré Renaud et Sabrina qui rêvent de devenir pâtissiers et qui ont décidé de le réaliser, ce rêve.
À peine 2 semaines de formation et le geste est déjà précis. Le coup de fouet est léger et rapide. Le nœud de son tablier immaculé est bien serré. Sous sa toque d'apprenti pâtissier, Renaud rêve d'envoûter les papilles et de trouver un nouveau sens à sa vie.
J'ai un parcours assez particulier où j'ai fait des longues études de biologie moléculaire et génétique où je suis allé jusqu'au doctorat. Et en même temps, j'avais une autre passion qui était la danse. J'ai pris un an après mon doctorat pour danser qui s'est transformé en 21 ans.
Et qu'est-ce qui vous amène ici dans cette école de pâtisserie ?
Je suis danseur et intermittent du spectacle. On a été un peu nommé comme une des gens qui étaient non essentiels à la vie générale. Je me suis retrouvé depuis un an à ne pas travailler quasiment. J'étais passionné de pâtisserie et du coup il y a eu l'envie de faire ce CAP de pâtissier pour développer de la pâtisserie sans gluten à Paris.
Est-ce que cette période d'inactivité, ces confinements successifs a été propice à une petite introspection ?
Tout à fait. Ça a été bénéfique parce que ça a été le moment de se faire une introspection sur son futur professionnel.
Qu'est-ce que vous ajoutez là ?
Là, je rajoute des œufs. J'ai fait ce qu'on appelle un crémage.
Renaud, je vais vous laisser terminer votre cake. Okay, merci. Je vais aller embêter votre collègue Sabrina.
Ok,
à tout à l'heure.
On a commencé il y a 2 semaines la formation, donc on commence à s'habituer à manipuler un peu plus les poches à douille, les fouets, les culs de poule.
Renaud me disait que cette période d'inactivité pour lui a été une période bénéfique d'introspection. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?
Tout à fait. C'est retrouver du sens à sa vie.
Et sans la pandémie, vous n'auriez pas pris le temps de réfléchir à cette nouvelle voie professionnelle ?
Ça n'aurait pas accéléré ma réflexion à ce point-là. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, je serai encore en réflexion à rechercher peut-être des écoles. J'étais graphiste avant et donc on a passé cette dernière année en télétravail, à réfléchir un petit peu, à remettre en perspective certaines choses. La pâtisserie pour moi était déjà une passion. J'avais déjà eu cette idée avant la crise.
Et la quête de sens est arrivée.
Exactement. Tout a pris sens. Les briques se sont imbriquées les unes les autres et tout a fait sens.
Renaud, je reviens vers vous. Raphaël Enthoven est en studio en ce moment. Oui. Il nous écoute.
Oui.
Est-ce que vous voudriez lui poser une question ?
Quelle est l'importance pour lui de la culture ? Et est-ce qu'il estime qu'il a été fait assez de choses pour que la culture continue à vivre pendant le Covid ?
Voilà, Renaud, ancien danseur, forcément très marqué par l'arrêt de la culture.
Oui. Oui, la culture me semble essentielle, absolument essentielle, mais en faire l'alpha et l'oméga de la survie me semble illusoire. Je pense qu'on peut être très cultivé tout en étant très méchant ou très intelligent. La culture n'est pas une garantie contre la connerie, en fait. C'est ce que le fait d'avoir appris des choses m'a aussi appris. D'ailleurs, j'ai pu le vérifier en moi. Renan, le grand Ernest Renan, disait « Moi qui suis cultivé, je ne trouve pas de mal en moi. » Cette phrase est folle. La culture ne protège de rien. Peut-être de l'ennui.
En tout cas, ces histoires sont inspirantes.
Cette histoire est très intéressante parce que vous savez, Camus dit dans L'Envers et l'Endroit, il dit dans la préface de L'Envers et l'Endroit, changer la vie, oui, mais pas le monde dont je faisais ma divinité. Et je trouve que cette pandémie a été l'occasion pour les démagogues de dire, il y a un monde d'après qui sera complètement différent, ce qui était complètement faux et une arnaque. En revanche, très concrètement pour des gens, pour des individus, changer de vie radicalement, oui. On peut changer de vie, on ne change pas de monde.
Et parmi les musiques qui vous inspirent, on écoutait Chopin tout à l'heure sur votre météo, il y a aussi Mozart, fantaisie en ré mineur.
C'est vrai. Je ne savais pas que vous étiez allé là.
On a bien fait d'aller
parler. Oui, vous avez bien fait, oui, bien sûr, parce que c'est une des versions possibles de la fameuse petite phrase proustienne qui hante toute la recherche du temps perdu. C'est un morceau de musique imaginaire et pourtant Proust en parle pendant des centaines de pages, des dizaines de pages. Et ce qu'il arrive à dire de ce morceau me semble parfaitement incarné par la fantaisie en ré mineur et le moment où la petite phrase dans cette fantaisie revient, oui.
Dans un instant, on reçoit votre invité, l'humoriste, acteur et réalisateur Nicolas Bedos, qui vient de signer également une tribune poignante sur le droit à mourir dans la dignité. A tout de suite sur RTL.
RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu de Raphaël Enthoven.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Chanteur de Balavoine, une chanson je trouve qui colle bien à votre invité Raphaël Enthoven. Bonjour Nicolas Bedos, merci beaucoup d'être avec nous, ça vous fait rire.
Ouais, ça me fait rire. Ouais.
C'est bien trouvé, non?
Oui, puis accessoirement c'était la chanson à la mode quand je suis né. Ma mère l'écoutait en boucle, le ventre énorme de moi-même.
Oui, j'ai dû subir la même chose et je dois m'en souvenir aussi d'une certaine manière. Salut Nicolas.
Alors je précise que vous n'êtes pas intimes tous les deux, vous vous connaissez.
Non, on n'est pas intimes, on est estimes.
Et estimes, exactement. Et vous vous portez une admiration mutuelle. Alors Raphaël Enthoven, qu'est-ce que vous retenez surtout de Nicolas Bedos avant tout? Son humour, son irrévérence, ses films, ses prises de position?
Je pourrais commencer par l'humour, l'irrévérence, etc., etc., et dire des choses, lui faire des compliments qu'il a déjà entendus. La première chose que je retiens, c'est Monsieur, Madame Adelman. Je trouve que ce film est une merveille. Ce qu'on a déjà dû te dire, mais je trouve ce film absolument merveilleux. Je trouve qu'il, non seulement il est merveilleux, non seulement il vous enthousiasme alors qu'il n'épargne aucune tristesse, mais en plus, c'est très drôle et il y a vraiment des répliques de feu. La scène où la mère pleure parce qu'elle n'est pas triste et où le pauvre père comprend en disant « mais il n'était pas attachant », c'est une scène merveilleuse. Le rapport à la paternité dans ce film est une chose merveilleuse. J'aime, pour le dire vite, et puis voilà, il faut qu'on discute, mais moi j'aime, pour le dire vite, cette liberté, cette, y a des tas de gens qui croient qu'il suffit d'être mal élevé pour être insolent. Eh ben Nicolas, c'est beaucoup mieux que ça. Nicolas est profondément libre et je suis content d'être son contemporain.
Nicolas, je précise que Monsieur et Madame Adelman, c'est le premier film que vous avez réalisé. Je reprécise pour nos auditeurs.
Oui,
vous vouliez dire
vrai.
Quelque chose, pardon, je vous ai coupé, Nicolas.
Non, mais pour répondre à ce que vient de dire, moi j'ai une sorte de sympathie dangereusement narcissique pour Raphaël Enthoven. Il est né dans un milieu favorisé, il s'exprime avec une sorte de raffinement parfois exaspérant. Il critique un monde dont il profite allègrement. Bref, comment pourrais-je ne pas m'y contempler moi-même?
Voilà.
Je trouve ce garçon réjouissant, voilà. Parce qu'en plus, lui, ce que je ne me permets plus, solidarité pour mes équipes, pour le budget des films que je suis, que je défends, lui continue à frayer avec le crétinisme ambiant et je trouve qu'il le fait avec une vigueur salutaire. Il est courageux. Voilà, je le suis parfois comme un déserteur de la guerre médiatique qui regarde un soldat camarade au front.
Vous parliez à l'instant des films que vous défendez. Alors, vous avez réalisé le très, très attendu OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
Non, trop bien.
Hubert, n'êtes-vous pas le meilleur? Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Que savez-vous de l'Afrique?
Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards.
Ce sont nos amis. Ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium.
Rassurez le président.
Mais respect, monsieur le président.
Mon ami, j'aime la France.
Et votre musique
C'est quand même autre chose que ce tam-tam insupportable.
Je sens qu'on va bien s'entendre.
Que c'est bon, qu'on a hâte.
Bah, c'est oui, c'était vraiment que Nicolas Bedos drôle. Et l'OSS 117 étaient faits pour se rencontrer. C'était une évidence pour moi. Pour connaître un peu les deux, je dois dire que...
On verra ça le 4 août. En tout cas, voilà, d'entendre une bande-annonce d'un film qui va donc sortir, jurez-le-moi.
Mais c'est fait, c'est promis, c'était réel.
À 13h... Vous avez la preuve que ce film va sortir.
À 13h14 sur RTL, on l'a vécu.
Que les pirates vont ouvrir, que je vais pouvoir, je ne sais pas moi, boire une bière avec Raphaël Antoven en parlant de cinéma et de Proust.
Dieu t'entende, amen.
On sent la jouissance, ça fait du bien.
L'image la plus irritante d'ailleurs, pour les auditeurs d'RTL, imaginez Nicolas Bedos et Raphaël Antoven en train de babiller à la terrasse d'un café parisien. On est dans le cliché le plus total, mais moi, ça me ferait très plaisir.
Ah bah, vive le cliché, tiens.
On est très heureux pour vous et pour Raphaël, mais on est aussi évidemment très très heureux pour votre équipe et pour tous ces gens qui vont travailler sur le film et qui doivent être extrêmement
patients. Vous savez, Ophélie, on a beaucoup ramené la culture, l'art en général, à une sorte de frivolité ces derniers mois, à un truc un peu... mais quelle honte, tous ces spectateurs et ces artistes qui pleurnichent parce qu'on les empêche d'aller dans des théâtres, d'aller dans des opéras, d'aller dans des... Mais moi, si vous saviez le nombre de gens que je croise tous les jours, de tout âge, de tous milieux sociaux, qui me disent « Ah, oh, j'ai tellement hâte d'aller m'enfermer avec des gens et rire ensemble !» Parce que, ok, tous les plateformes, les machins, tout ce qu'on veut, et je suis moi-même d'ailleurs un consommateur pathologique de fiction sur écran, oui, je pourrais vivre dans une chambre moi-même. Mais quand même, j'étais récemment en Suisse où les salons rouverts et on a présenté OSS avec Jean Dujardin et d'entendre des rires partagés. Et là, je parle même pas de mon film, de moi, de ma gueule, de trucs. C'est pas de la promo là. C'est vraiment, j'étais comme n'importe qui. On était tapis dans l'ombre avec Jean. Et on prenait notre pied.
Enfin, on a hâte. Le 4 août, hein, en salle, en France, c'est le 4 août top départ. Nicolas, en ce mois de mai, on a évidemment une pensée pour votre père, votre papa, Guy Bedos, qui nous a quittés il y a tout juste un an. Il est parti dans des conditions que vous jugez indignes. Et vous vous battez d'ailleurs pour le droit à l'euthanasie. Vous signez une tribune absolument poignante dans l'Obs cette semaine. J'imagine que vous avez eu beaucoup de retours, beaucoup d'appels suite à ce texte extrêmement fort que j'invite tous nos auditeurs à aller lire. Combat que vous partagez, hein, évidemment.
Absolument. Je partage sans limite. Je ne comprends pas que la loi ne permette pas aux gens, de cette manière-là en tout cas, quand la situation l'exige, de disposer de leur existence. Cette relique médiévale dans la loi est absurde. Et alors, l'intérêt, c'est qu'il y a des pays qui appliquent aujourd'hui le suicide assisté ou l'euthanasie, la mort assistée, et où on peut constater que, contrairement aux prédictions des gens qui annonçaient la fin du monde, on n'y voit pas de génocide de vieillards, on n'y voit pas, ce ne sont pas devenus des dictatures où la vie est désormais transformée en bouffe pour les rescapés, si vous voulez, c'est pas Soleil Vert. Soleil Vert est une dystopie qui ne marche pas. Un monde où l'euthanasie existe n'est pas un monde totalitaire, n'est pas un univers eugéniste. C'est un monde où l'on respecte la vie parce qu'on a compris qu'entre la liberté et la vie, le choix de la vie était parfois mortifère. Voilà, je trouve son combat remarquable et son récit très, très, très émouvant.
Non, mais les abus dont certains parlent sont en fait une sorte d'argument, en général, d'idéologues qui instrumentalisent souvent des cas d'excès absolument dingues où on profite justement des béances comme ça de la loi pour pouvoir faire des choses ignobles, mais ça c'est toujours dans la bouche, vous entendrez toujours ça dans la bouche de gens qui ont un problème idéologique avec ça. Moi j'ai accepté, j'ai répondu à la demande de l'Obs d'écrire un papier, de livrer quelque chose d'extrêmement intime, de très impudique même, dans le seul but, et on le comprend quand on le lit très rapidement, de mettre des mots. En fait, voilà, j'ai livré un bout de mes larmes et de mon expérience pour pouvoir dénoncer, cette espèce de flou d'interprétation que la loi inflige aux médecins, dont la main tremble au bout de la seringue, quoi, si vous voulez. Et très rares sont ceux qui, aujourd'hui, ont le privilège de pouvoir partir selon leurs vœux. Et j'ai senti une telle révolte, un tel chagrin tue dans l'œil de l'homme que j'aimais le plus au monde. Et c'est vrai que, notamment pour ceux qui nombreux d'ailleurs en période de Covid, parce qu'aller à l'hôpital, ça voulait dire aller au diable, hein, pour tous ceux qui partent chez eux, ça plonge les familles dans un désarroi total, et j'ai failli devoir tuer mon père moi-même.
On le découvre dans ce texte que j'invite vraiment nos auditeurs à lire. Et si je peux me permettre, Nicolas Bedos, je n'ai absolument pas trouvé ça impudique. J'ai trouvé ça nécessaire.
Non, c'est pas impudique. C'est pas impudique quand c'est tellement intime, c'est-à-dire tellement partageable. Toute liberté, pour aller dans le sens de Nicolas, en un mot, toute liberté implique le mauvais usage de cette liberté. Si vous autorisez l'avortement, vous favorisez probablement des comportements irresponsables. Si vous permettez telle chose, ce que vous permettez produit aussi des comportements irresponsables. Mais le mauvais usage d'une liberté n'est jamais un argument recevable contre cette liberté-là. C'est pas parce que une telle loi aurait probablement des conséquences sur certaines familles qu'une telle loi doit être ajournée indéfiniment.
On pourrait en parler des heures, mais surtout je voudrais aussi inviter...
Ça fait un petit peu bataille d'éloges, mais c'est vrai que c'est important des Raphaël Antoven en ce moment, parce que il manque une parole éclairée qui, en plus, grâce à lui, nous rappelle les grands penseurs, les grands philosophes, les grands écrivains, parce que sa culture est un bien précieux pour nous tous. Moi, sous sa plume, je redécouvre des écrivains auxquels on n'a pas forcément accès au quotidien. Et c'est un passeur d'intelligence, Raphaël. Et c'est vrai que dans cette période qu'on traverse, qui est une période, quasiment d'interdiction de dialogue, d'interdiction de débat, où les gens n'y parviennent pas d'ailleurs, mais aimeraient taire la contradiction, la réflexion et beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos libertés. Un mec comme Raphaël, qu'on l'aime pas, peu importe, c'est du savoir, c'est de l'intelligence, et c'est pas mal de courage quand même, parce que... pour avoir traversé des cabales médiatiques diverses, on le sait, j'y suis allé quand même, moi, pas mal. On n'en sort pas toujours indemne. Et il m'arrive parfois d'avoir, de temps en temps, envie de discuter un peu avec lui, parce que les gens croient qu'on est comme ça, barricadés, très sûrs de nous, derrière nos engagements, et se disent « Oh, bah, c'est tellement facile, il doit s'enorgueillir, finalement, de sa propre audace, et tout ça. » Mais derrière, je le vois bien sur Twitter et sur les réseaux, Raphaël, notamment, en dehors même de ses livres, on s'endort parfois le cœur lourd de toutes ces insultes, de toute cette bêtise qui s'abat sur parfois des déclarations où on a simplement défendu des valeurs importantes, quoi.
Mais tellement.
Et des valeurs à retrouver dans votre texte, et surtout
merci,
votre talent
Nicolas.
De réalisateur à retrouver
rien.
Le 4 août dans le dernier OSS 117 au cinéma. Merci infiniment Nicolas Bedos d'avoir été avec nous en direct. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Raphaël Enthoven avec Ophélie Meunier sur RTL.
Il y a un instant, on parlait cinéma avec Nicolas Bedos. Une de vos scènes de cinéma préférées, Raphaël Enthoven, c'est dans King Kong, version Peter Jackson. On l'a tous en tête. Ce moment où le singe et Naomi Watts regardent le coucher de soleil, c'est magnifique. Et pour se le dire, pour communiquer, ils mettent tous les deux la main sur le cœur.
La main sur le cœur, oui.
Qu'est-ce qui vous touche ?
En fait, ce qui me touche, c'est que quand on voit un coucher de soleil, on sait que c'est beau. Et pourtant, on ne sait pas ce qu'est la beauté. Quand on voit quelque chose de beau, on le reconnaît tout de suite. Personne ne doute de ce qui est beau, d'une certaine manière. C'est universel, c'est un sentiment universel. Et pourtant, on ne connaît pas la beauté. On ne pourrait pas la déduire. C'est une évidence sans vérité. Et dans ce film, il a l'idée géniale d'étendre cette universalité au grand singe, bien sûr. Et donc, que nous ayons en commun avec lui de partager cette expérience-là, cette expérience de la beauté, me semble, de tous les messages de King Kong, peut-être le plus intéressant.
Ça donne très envie de retourner au cinéma. Dans le journal inattendu, je propose à mon invité de laisser un message à une personne de son choix.
Oui.
Quelqu'un que vous connaissez ou pas. Si vous avez une demande à faire passer, c'est le moment. Alors, Raphaël Enthoven, à qui avez-vous choisi de laisser un message ?
Adieu. Adieu, c'était facile. Bonjour Monseigneur, il paraît que vous n'existez pas. Alors, c'est possible, mais quand on voit les crimes ou les bienfaits qu'on commet pour vous, on peut avoir un doute. Ce qui est certain, c'est que vous existez au moins autant que le Père Noël. Si jamais vous avez ce message, auriez-vous la bonté, Monseigneur, d'informer de votre inexistence les imbéciles qui tuent en votre nom ? C'est pour une amie.
C'était une belle prière. Merci Raphaël. Merci Raphaël. Ou pas, on espère.
On sait pas, vraiment.
Raphaël Enthoven, vous avez écrit L'école des dames aux éditions de l'Observatoire. C'est réjouissant, ça fait du bien. J'ai beaucoup aimé la lire. Je vous le partage et une pièce peut-être bientôt jouée sur scène.
Ah, si Dieu veut. Merci.
Si Dieu le veut, bah vous voyez finalement. Et on se quitte sur une chanson que vous adorez aussi. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover.
50 Ways to Leave Your Lover. You just slip out the back, make a new plan, stand.
Et vous chantez même.
Ah oui, bah on était. C'était ouvert.
Bah oui, c'est très bien.
Sous ma douche.
Si vous voulez réécouter cette émission, direction l'application RTL, le journal Inattendu est disponible. Vous chantez ou même vous dansez, je dois dire. Tout de suite, c'est Confidentiel, présenté par Jean-Alphonse Richard, numéro consacré à Bernard Madoff. La semaine prochaine, dans le journal Inattendu, je reçois Julien Doré. Très bon week-end à tous. Merci de nous écouter chaque semaine. Rendez-vous samedi prochain à 12h30. And get yourself free.
RTL, le journal inattendu. RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.